Salut le vivant, ici Lynxar et Maxtor.
Depuis notre vaisseau Pintosaur, on explore tout ce qui s'agite, de l'infiniment petit à l'infiniment grand.
Nous, notre délire, c'est de manger par les oreilles.
Alors on vient s'immiscer dans Quartier Libre pour proposer un espace dédié à la création sonore.
Exploration souterraine, pistes cosmiques ou rêveries enfantines, on va vous faire voyager dans des vies parallèles, celles qu'on n'a pas l'habitude de prendre le temps d'écouter.
Ce sera peut-être magique, sucré et espiègle,
et sûrement poilu, vieux, bête et méchant.
Alors Audrey, comment ça va?
Eh ben, ça va. Amazing. Non, en vrai, ça va, mais j'aimerais bien dormir cette nuit. Parce que la nuit dernière, il y avait des bruits dans mon oreille. Voilà, donc j'aimerais bien qu'ils partent. Parce que c'est chiant. Mais bon, il faut que j'arrête de manger du gâteau. Non mais si, c'est lié. Parce que c'est quand mon estomac, il est pas content. Il est trop plein de gâteaux. J'ai des bruits dans mon oreille gauche, si tu veux tout savoir.
Du coup, ce que tu es en train de dire, c'est que le gâteau, il essaye comme ça, dans la nuit, de t'envoyer un message via des espèces d'ondes sonores.
Oui.
D'accord.
T'es pas convaincue?
Non.
Non, mais si, c'est bizarre. C'est pas très scientifiquement prouvable. Mais c'est comme ça.
Bah, tu sais ce que je te propose, Audrey? C'est un nouvel épisode de C'est pas sorcière et qu'on aille voir un petit peu tout ça de plus près.
Allez, go. Alors ce soir, on va explorer l'infiniment petit pour de vrai. On va même entrer en relation avec. Et sur deux épisodes. Incroyable, non? Amazing. On vous propose d'écouter un docu-fiction trop super. Les cailloux meurent aussi. Et c'est made in Belgium.
C'est un voyage sonore à travers la poésie du tout petit. Une sorte de récit politico-scientifique de la rencontre d'une chimiste avec des atomes. Et ce soir, on vous montre que la première partie. La prochaine arrivera fin septembre.
Et attention, on a eu la chance de pouvoir discuter avec la réalisatrice, Mathilde Schonauer-Sebag, aussi appelée Doudinka.
Tu veux nous dire ce que ça veut dire, Doudinka?
En fait, c'est une ville en Russie, mais avec des OU. Et comme mes amis m'appellent Doudou, et alors c'est devenu Doudinka. Donc, c'était le nom du projet solo, un peu avec lequel j'ai commencé le son. Donc, il doit y avoir, je sais pas, une centaine de titres. J'ai un rapport à la matière qui vient du fait que je suis chimiste. Donc, j'ai étudié la chimie pendant 8 ans. Et aussi la physique. Aujourd'hui, je suis prof dans le secondaire en Belgique. Et parallèlement à ça, j'ai beaucoup, beaucoup le son. C'est un peu le même rapport à la matière, à la tactilité qui m'attire dans le son. Et au fait qu'un son, ça vient me toucher par le corps aussi, parfois plus que par les oreilles.
Et alors, pour ce projet, Les cailloux meurent aussi, qu'est-ce qui a été à l'origine de ton envie d'écrire et de traiter ce sujet?
J'ai rencontré un photographe qui travaillait sur la mine de tungstène qui se trouve à Salo en Ariège et qui a fermé en 86 après divers cas d'intoxication à l'amiante. Et on est parti ensemble lui chercher quelqu'un pour faire le son. On est parti ensemble sur place parce qu'en ce moment, il y a un projet d'exploration de permis d'exploration pour réouvrir la mine. On est parti avec moi, c'était la première fois que j'avais du super matos sonore qu'on m'avait prêté pour enregistrer un peu les sons de là-bas. Et en fait, le sujet m'a complètement fascinée. Le sujet de la mine et de l'extraction, de ce que ça veut dire que d'ouvrir une montagne en deux, d'aller faire fouiller à l'intérieur et d'en prendre que ce qui nous intéresse, ça m'a touchée du point de vue en tant que chimiste, mais aussi en tant qu'activiste. Environnemental, puisque je fais beaucoup d'activisme, beaucoup d'actions dans ce sens-là. Et j'ai trouvé que l'extractivisme, l'extraction minière, c'est vraiment un lieu qui concentre une violence inouïe envers les humains. D'une part, parce qu'il y a toutes les maladies professionnelles, la façon, que ce soit en Europe ou ailleurs, d'ailleurs, on oublie un peu que c'est pas forcément mieux en Europe, qui concentre vraiment les violences contre les humains et contre la faune, la flore environnante et contre les éléments inertes comme la montagne en elle-même ou les cailloux. Et du coup, le propos est parti plutôt des cailloux comme matière qui souffre dans cette narration-là pour parler plus généralement d'extraction minière.
On se demandait avec Audrey, est-ce que tu as choisi ton métier de chimiste parce que tu avais déjà ce goût-là et cette curiosité, cet intérêt pour la matière, ou est-ce que ça s'est fait un peu à l'inverse, que tu as choisi ton métier et puis qu'après ça t'a ouvert aussi toute une nouvelle perspective et une façon de voir le monde?
Ouais, au début, quand je me suis penchée sur cette question, j'ai répondu un peu du tac au tac, c'est par la chimie que la préciosité ou l'émerveillement de la matière est arrivé. Et après, j'essayais de comprendre un peu plus spécialement le rapport que j'avais à la matière quand j'étais enfant. Et je pense qu'il y avait notamment un sens de l'observation qui a été vraiment encouragé par mon éducation, j'imagine, et d'observer, de donner de l'attention aux choses, aux objets, à la matière qui nous entoure et qui a dû jouer quelque part un rôle dans cet appétit pour comprendre le petit ou les coulisses. Il y a vraiment un truc que je trouve très très riche dans se dire, vous voyez, il y a le monde qui nous entoure et quand on fait de la chimie, on passe un peu dans les coulisses. Pour moi, je sais que les biologistes et puis les physiciens et physiciennes pourraient dire la même chose. C'est d'autres angles en fait. Et je pense que ça, c'est comme si ça augmentait le rapport au monde un peu. Et ce rapport-là, du coup, même si c'est pas celui avec lequel j'ai étudié la chimie, j'essaye de le communiquer à mes élèves et je leur dis, regardez, en fait, on est assis sur une table, c'est assis sur une chaise, ça c'est une table, mais c'est pas que ça, c'est pas seulement ça. C'est aussi, on prend notre petit microscope et puis si on zoome, là, la structure moléculaire, ça ressemble à ça, alors que le plastique, c'est pas du tout pareil, le verre, c'est pas pareil, la crise, c'est pas pareil. Et du coup, à un moment, c'est devenu un peu cette conscience d'être un ensemble d'atomes. Ça modifie profondément le rapport au monde et à son corps. Ça rassure, je sais pas. Il y a cette chimie qui vient nous dire, ah, mais finalement, c'est que ça. Et en même temps, c'est-à-dire, on n'est que des atomes. Et en même temps, vu que je l'ai fait parler, c'est aussi plus que des atomes.
C'est quand même émouvant de faire des liaisons. Enfin, c'est hyper. C'est intense, quoi. Enfin, c'est une relation hyper forte avec d'autres atomes. D'un coup, tu te retrouves imbriqué avec une autre particule. T'es un duo, un trio, un milieu. Et du coup, t'es ensemble, quoi. Là, t'es une communauté.
Les cailloux meurent aussi. Une création radiophonique de Mathilde Genoer-Sebach.
Un jour, il s'est passé quelque chose d'un peu dingue. La journée commençait bien, je suis partie de chez moi, grand soleil. Il y avait 9,7 km jusqu'au labo.
Ouais, c'est ça, mais pas ton clignotant, toi.
C'est-à-dire 32 minutes, avec le vent de dos et comme mon vélo le veut bien. Parce que parfois, je pense qu'il est... Enfin, je sens qu'il est un peu moins motivé. Comme les humains, en fait. Hein. Il y a un petit bitonnier qui frotte, un garde-boue qui se décroche, la selle qui part en vrille. C'est un vélo de style hollandais qui a bien vécu, assez confortable, cadre classique, acier,
carbone fer,
selle bien rembourrée,
polymère issu du
genre de porte-bagages bizarre mais plutôt solide,
carbone fer,
moyeu à vitesse intégrée, poignée agréable sous la peau,
polymère issu du pétrole,
des câbles de frein tout neuf,
carbone fer zinc,
un fier destrier.
Ça va, je sais plus de quoi j'ai rêvé, tu vois, il y avait des sortes de grands parasols.
Je sais pas si ça vous arrive de parler avec des objets. Moi, je parle hyper souvent avec mon vélo.
Pour aller chercher.
Je pense que c'est peut-être l'objet qui me connaît le mieux. Quand je rentre au milieu de la nuit, c'est souvent avec lui que je retrace le cours de la soirée. Quand je suis triste ou fatiguée, c'est parfois auprès de lui que je m'épanche. Je suis arrivée au labo. Tout était normal. C'est un laboratoire de chimie un peu à l'interface avec la physique. C'est un domaine qui s'appelle la science des matériaux. L'objectif de mon travail, enfin en fait de ma thèse, c'est d'augmenter le rendement des panneaux solaires. Les atomes, les molécules, au bout d'un moment, à force de les manipuler, on finit par leur prêter des personnalités, voire des intentions. Par exemple, le fluorure de sodium, je me souviens, il n'était pas du tout collaboratif. L'acide ascorbique, toujours un peu frileux. Il y avait l'iodure de méthylammonium. Je crois que lui, c'était vraiment une plaie.
Merde, il n'y a plus d'éthanol.
Et il y a des jours où les expériences, elles marchent pas. On en vient à penser que ça dépend pas de nous, que les molécules, elles choisissent parfois un peu de collaborer, parfois un peu de résister. Ce jour-là, en fin d'après-midi, j'ai voulu lancer une petite synthèse qui devait tourner toute la nuit.
3 ml d'acide oléique, 7 ml d'octadécène. Il faut que je rajoute 1 ml d'YCl3, 0,6 ml de GDCl3, 360 microlitres d'ytterbium et puis 40 de erbium. Allez, c'est parti. On va peser tout ça. Ok, 7 ml d'octadécène, allez, viens par là, toi.
Et c'est là, la première fois que ça m'est arrivé.
Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce qu'il parle ? Il m'entend ? Trop bizarre, mais j'ai rien fait de différent d'habitude, attends. Ah ouais, octadécène ? Non, c'est quoi ? J'essaye l'acide ascorbique. Acide ascorbique. Où tu es ? Où tu te caches ? Petite acide oxotrogulofuranolactone. Ah, te voilà. Bon.
Ok.
Hyper étrange. Je... C'est quoi en fait ? Des voix de qui ? Je suis complètement en train de rire. Ok, fin de la journée. Je reprendrai demain.
Je suis sortie de la salle de manip, j'ai posé mes pieds sur le carrelage du couloir.
Caoutchouc, polymère issu de la pétrochimie. Céramique, aluminosilicate hydraté, KALSI3O8.
J'ai récupéré ma veste, mon sac, mon bonnet.
Viscose, C6H10O5N fois.
Mes clés.
Acier, fer, carbone.
J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre.
Vert, SiO4.
J'ai éteint les néons.
Mercure, quartz, silicate, alumina.
J'ai tourné la poignée de la porte qui menait dehors.
Aluminium.
J'ai inspiré.
N2, H2O, CO2, PM2.5, SOX, NOX, COV, POPS.
Je suis allée décrocher mon vélo, et là, cette fois, j'ai entendu deux voix, mais distinctes.
La mémoire de l'empreinte d'un humain, mais c'est pas la mémoire de ta vie à toi. Enfin, même si du coup, ça fait partie de ta vie, puisque
ouais, en tant qu'atome, du coup... Il garde des mémoires, des tout petits événements, comme ça.
Ouais.
Voilà, vous m'entendez
fait... Elle nous a parlé ?
Ben ouais, je crois.
Ah oui, je vous ai parlé, oui.
Ah, on savait pas si ça arriverait un jour.
Si quoi arriverait ?
Salut Adélaïde.
Vous connaissez mon prénom ?
C'est un peu impossible de savoir quels humains vont nous entendre.
Nous, ça fait un moment qu'on t'entend.
Mais vous êtes qui ? Je vous vois pas.
Moi, c'est Gédéon, je suis un atome de gadolinium.
Et moi, c'est Fée, je suis un atome de fer.
Vous êtes des atomes.
Exactement. Moi, j'ai 64 électrons.
Et moi, j'en ai 26. Oh là, elle a l'air sonnée.
C'est vrai que ça fait souvent ça au début.
Adélaïde ?
Mais du coup, vous êtes des atomes de mon vélo.
Bah non, t'as déjà vu du gadolinium sur un vélo? Non, non, on s'est rencontrés dans ton sang.
Dans mon sang?
Ouais, à l'époque où j'officiais en tant qu'agent de contraste, pour révéler les maladies et tout.
Quand j'avais fait les examens médicaux...
Ouais, moi je faisais partie de ton hémoglobine.
Ouais, c'est ça, on s'est croisés dans un petit vaisseau sanguin vers le pied gauche, je dirais.
Gros coup de foudre.
Mais ça me dit pas comment vous êtes arrivés sur le vélo.
Et tu te souviens la fois où tu t'es piqué le dos au doigt avec le cap de frein, là?
Ouais.
Et ben voilà, on est sortis à ce moment-là.
Non.
Oh, la sortie, je te raconte pas, c'était quelque chose.
Oh, une lumière de dingue, de l'oxygène en pagaille.
Oh, vous êtes 37 degrés à l'intérieur et après, boum, on se fait cailler.
Est-ce que ça arrive souvent qu'il y ait des humains qui vous entendent?
Assez rarement, quand même, je dirais.
C'est vrai que ça faisait longtemps.
Ok, donc je suis pas complètement folle.
Ah non, non, nous on parle tout le temps, c'est juste une question d'écoute, en fait.
Bon, ok. Je pouvais entendre certains atomes. Au labo, sur mon vélo, et puis peu à peu ça s'est mis à m'arriver de plus en plus souvent. Après, c'est surtout avec Fée et Gédéon que j'ai bien accroché. J'avais quand même envie de savoir comment les autres humains entendaient les atomes. Parce que c'est un peu bizarre, même si on est composé d'atomes, en fait, je connais peu de gens qui ont des relations avec eux. Bah déjà, les relations avec les choses qu'on voit pas ou qu'on n'entend pas, c'est assez rare, hein. À une autre échelle, je sais que beaucoup d'humains ont des relations avec des objets. Un peu comme moi avec mon vélo. Au Japon, par exemple, il y a même des cérémonies. Des cérémonies pour les pinceaux, pour les bouliers, les épingles rouillées. Il y en a même une pour le repos des poupées cassées. Dans un film de Chris Marker que j'aime bien, qui s'appelle Sans soleil, la narratrice raconte.
Même si la rue était vide, je m'immobilisais au feu rouge, à la japonaise, afin de laisser la place aux esprits des voitures cassées. Même si je n'attendais aucune lettre, je m'arrêtais devant la poste restante. Car il faut honorer les esprits des lettres déchirées. Et devant le guichet de la poste aérienne, pour saluer les esprits des lettres non envoyées.
C'est réjouissant de voir qu'il y a d'autres liens avec la matière que juste l'utiliser qui peuvent être faits. Ça m'a fait plaisir de rencontrer Adélaïde. Quand on m'a sorti de la terre, c'était assez violent. Qu'on peut s'émerveiller de voir toutes les histoires qui résident dans un objet comme un bout de plastique, un bout de verre éclaté. Qu'est-ce qu'il peut nous raconter quand on le trouve par terre comme ça? Qu'est-ce qu'il a d'autre à dire quand sa fonction de verre n'est plus? On a envie de l'écouter. Peut-être juste de le considérer un peu en tant que matière. Peut-être qu'on a envie de le caresser. Peut-être qu'on a envie de le sentir. Ouais, ça fait bizarre de se dire qu'on est juste une vulgaire matière à être consommée, utilisée. C'est quand même agréable. C'est bien aussi sous terre avant. Je me demande si cette histoire va se répéter. J'ai hâte de me retourner un peu, me lever au chaud. Peut-être que je vais faire un petit somme, un petit roupillon, quelques millions d'années. Ça m'a quand même bien épuisé, cet épisode.
On est fait et faite d'atomes. Ce qui est matière est atome, c'est-à-dire une poignée de neutrons, de protons et d'électrons. Des toutes petites petites particules. Et entre elles, le vide. La matière, c'est 99,9% de vide. Il y a un nombre incalculable de choses que l'on touche, que l'on fréquente, que l'on goûte, que l'on voit, que l'on sent, que l'on vit, mais qu'on ne perçoit pas. Je promène mon regard autour de moi. Je vois un mug. Je ne perçois ni un empilement amorphe de silicium, de calcium, ni le vide. Je vois une lampe qui brille, là, posée sur mon bureau. Je ne perçois ni un alliage métallique qui, sous l'effet d'un courant électrique, émet des photons qui se promènent jusqu'à mes yeux, ni le vide. Je vois un ordinateur sur lequel je tape le texte que je lis. Je ne perçois ni les électrons qui circulent, ni les zéros et les 1 qui s'encodent, les semi-conducteurs, les super-alliages du tantal, ni le vide. Et je vois encore moins que le tantal vient du Rwanda. Je croque une carotte. Je ne croque pas dans des chaînes d'acides aminés. Et dans du vide. Éventuellement arrosé de phosphate marocain. Ces informations sont pliées à l'intérieur de la matière, cachées dans ses sinuosités et ses recoins, invisibles et intouchables. Nous passons notre temps à effleurer les manifestations de leurs existences. D'où provient chaque ressource qui compose les objets? L'identité des mineurs qui les ont extraits? Le processus d'extraction du minerai, les différents états d'oxydation, de complexation, les changements de phase cristalline. Le procédé de Bayer, la jolie structure des atomes de carbone de nos crayons à papier, l'épitaxie en phase vers le silicium, de conditions de fabrication de ma machine à laver. D'où est-ce qu'ils viennent, ces atomes autour de moi? C'était quoi leur vie avant d'être ici? Tout ce qui nous entoure vient de l'autre bout du monde. Comment ils se sentent, ces atomes? À quel moment est-ce qu'on passe d'atomes à ressources? Comment varie leur valeur?
Est-ce qu'ils sont tous cotés en bourse?
Qui choisit les prix?
Ce serait quoi le consentement pour un atome?
Tout ce qui nous entoure vient de l'autre bout du...
L'autre bout du monde.
D'où est-ce qu'ils viennent, ces atomes, autour de moi?
C'était quoi leur vie avant?
Avant d'être ici. Poétique de la...
Les atomes, on ne sait pas comment ils vivent.
De la destruction.
Moi, j'étais dans une grande mine à ciel ouvert au Brésil. Et j'étais là depuis des millions d'années. J'étais sous forme d'oxyde de fer et je roupillais avec la famille dans la montagne, au chaud. J'étais tranquille, mais depuis quelques années, il y avait un peu des bruits de machines en fond sonore. Et un jour, il y a eu un énorme bruit de caillasse assourdissant. J'ai pas trop compris ce que ça faisait, tout allait hyper vite. J'étais secouée dans tous les sens, je comprenais rien. C'est venu d'un coup et petit à petit, je commence à comprendre que la roche où j'étais était concassée, broyée. Puis on m'a emmenée dans des hauts fourneaux pour être affinée. Et alors là, c'était encore hyper intense. On m'a trimballée dans pas mal d'endroits, dans l'usine. On m'a chauffée hyper fort. Ça m'a fait perdre le contact avec les atomes d'oxygène avec qui j'étais liée depuis toutes ces millions d'années dans la roche. Et là, on m'a mis avec un atome de carbone. On m'a lié avec lui et j'ai compris que c'était pour qu'on fasse de l'acier.
Vérifier Bluetooth pour PC et Mac.
Quand je repense à ce moment de ma vie, à cette extraction, ce déracinement, ouais, j'ai l'électron tout tremblant encore. Je me demande ce qu'ils sont devenus, tous les autres atomes de fer avec qui j'étais dans la roche au Brésil là-bas.
Google Assistant ou Amazon Alexa
chargé de tout contrôler, y compris les contrôleurs eux-mêmes.
Les humains se croient tout permis, quoi. Ils pensent qu'ils ont tout à leur disposition, que tout leur appartient, sans nous poser aucune question, sans même imaginer ce qu'on peut vivre, nous.
Téléviseur QLED 8K, repas du réveil, parfait pour épouser votre smartphone.
Je sais pas trop jusqu'où ça va aller, quoi, ce qu'ils peuvent faire de nous, jusqu'à quel point.
Grâce à une liaison 5G...
Ils ont créé plein de trucs trop bien, hein. Des outils, des maisons, des machines...
D'accélérer.
C'est plein de trucs hyper utiles.
Une enceinte connectée.
Il y en a d'autres, je comprends vraiment pas à quoi elle sert.
Plus de fonctionnalités, alors patate connectée.
Ils ont besoin de toujours plus.
De paraître le plus humain possible. 50 km d'autonomie.
Du coup, ça va aller.
Autonomie de 6 mois, lot d'innovation et de bonnes idées. Un avatar ultra réaliste qui sera impossible à différencier d'un véritable humain. Une bougie d'affichage tête haute. 240 km.
Moi, j'ai pas envie que tous les autres atomes de fer se fassent extraire.
Mademoiselle, mais qu'est-ce que vous faites ?
Un jour, je me suis embrouillée avec un type.
Et je suis en train de taguer un QR code de trottinette, monsieur.
Mais pourquoi faire ?
Les trottinettes électriques en free-floating sont une aberration écologique.
Mais il est 2h du matin, moi j'en ai besoin pour rentrer chez moi.
En prenant en compte son cycle de vie complet, la trottinette est seulement 3 fois moins de CO2 par kilomètre qu'une voiture.
Bon, je pense qu'on a à peu près les mêmes idées.
Plus de la moitié de son impact carbone est liée à sa fabrication.
Le sabotage, ça n'a jamais payé.
En plus, ces trottinettes ne sont utilisées qu'un mois en moyenne et elles remplacent la voiture moins d'une fois sur 10.
Mais en attendant, moi, je vais être obligé, par exemple, de prendre un Uber. Ce Uber, il pourrait tuer quelqu'un.
Quand il me parle de l'ici et du maintenant, moi, je pense au hier et au là-bas. J'entends la trottinette raconter une autre histoire. J'entends les atomes de lithium, Bolivie,
niobium,
les atomes d'aluminium,
Brésil,
Chine,
cobalt. RDC.
Les milliards de
gisements de pétrole offshore en RDC.
J'entends le fer, le cuivre,
nickel,
l'argent,
Nouvelle-Calédonie,
l'or.
Rapport
colonie, corruption,
Afrique du Sud,
antimoine,
Chine.
Je tends l'oreille,
borate,
Chine,
Turquie,
charbon,
gallium,
Chine,
chance,
germanium,
profit,
Chine,
indium,
caoutchouc,
Chine,
magnésium,
Chine,
phosphate,
Maroc,
intoxiqué,
tungstène,
Chine,
des rivières empoisonnées.
Des veines, des poumons, des branchies encombrées, des fluides vitaux ralentis, jusqu'à l'arrêt. La vie suspendue. J'entends tous ces atomes. Ils racontent d'autres histoires, autrement plus sinistres et réelles que l'histoire hypothétique de ce type qui tue quelqu'un en Uber. Puisque je suis en capacité d'offrir du temps d'antenne à la matière inanimée, alors je dois le faire.
pour que les humains apprennent à l'entendre, cette matière, là, partout autour de nous. Que la prochaine fois, ce ne soit pas moi qui réponde à ce type, mais que ce soit la batterie qui lui réponde. Les fantômes des guépards, des jungles, qui ne sont plus. Les reflux des marées troubles. Les mineurs chinois et leurs tongs, arpentant les fissures de la terre. Loin des yeux du monde. Les diamants qui goûtent et les volcans sourds qui grondent.
Comment est-ce que tu as travaillé pour ce projet parce qu'il y a plusieurs noms dans le générique. Alors, comment est-ce que vous avez collaboré, toi et ton équipe?
Il y a un travail très agréable qui a été fait avec les atomes dans la personne de Audrey et François. Donc, ils sont pas comédiens professionnels. Et on a travaillé beaucoup en impro. Je leur ai demandé aussi de lire certaines choses sur le sujet. Et je leur ai donné un peu des fiches personnages techniques, le nombre d'électrons, là où on les extrait, les objets qui servent à fabriquer. Et d'ailleurs, Gédéon a eu très envie de jouer le gadolinium au moment où j'ai dit le mot gadolinium, donc il a choisi son perso. C'était une partie de travail de préparation. Après, pour les tournages, on a travaillé avec plusieurs preneurs de son qui sont fort intervenus. Donc, il y avait Jeanne de Barcy, Aurélien Lebourg et Emmanuel Botterieux qui ont une super façon de proposer au moment du tournage de la direction d'acteurs et d'actrices. Donc c'était un plaisir d'être avec des professionnels du son et aussi de la fiction radio, donc qui ont un peu aiguillé nos choix. Une partie du travail qui m'a complètement hallucinée, c'était au mixage avec Rémi Gérard. C'est là que, en fait, il y a une troisième couche d'écriture qui s'est faite. Le choix des effets, le choix des plans sonores, une main vraiment d'une virtuosité assez dingue. Ouais, ça vraiment, à ce moment-là, au moment du mixage, donné une profondeur et une richesse à tous ces sons que j'essaie de rassembler. Des sons d'objets, des sons de... Donc, en fait, il y a tout un sous-discours qui s'écrit au moment du mixage.
Est-ce que tu as d'autres projets en cours? Qu'est-ce que tu fais en dehors de ton enseignement?
Il y a plusieurs choses. J'aimerais bien préparer un deuxième volet de ce travail sur l'extractivisme parce qu'il y a tout un propos que j'ai dû enlever pour des questions de cohérence de longueur qui est extractivisme, dette et colonialisme, et de faire en fait le lien entre la raison pour laquelle la plupart des mines sont dans des pays du sud global et la plupart des consommateurs et consommatrices sont dans le nord global. Donc, il y a quand même un biais géographique qui n'est pas sans nous rappeler celui des pays qui ont à un moment été colonisateurs et des pays colonisés. Là, à plus court terme, on est en train d'écrire avec une amie une nouvelle sur une grève par le miel. Donc, il va être... j'en dis pas trop, mais voilà, c'est une histoire racontée par le miel. Dans un monde dominé par des frelons asiatiques, où l'intégralité de leur économie et leur carburant, c'est le miel. Et donc, peu à peu, en fait, le miel va faire la grève de la viscosité et va devenir de plus en plus liquide. Et un peu cette idée de pouvoir avoir des communications avec même plus que le vivant, en fait, aussi le non-vivant. Et du coup, cette idée que le miel va nous raconter une histoire. Et cette année, enfin pour l'année à venir, je pense faire aussi peut-être un peu moins de radio et plus de musique parce que ça me manque un peu. Donc, je vais commencer un nouvel instrument, comme si ça ne suffisait pas, et la contrebasse. Et me concentrer sur le projet sonore d'improvisation musicale qu'on a avec un ami à la flûte qui s'appelle Dur et Fort dans mon ciboire. Donc, on fait un peu des sortes de paysages sonore avec de la voix aussi, beaucoup d'objets, des micros dans l'eau, un peu des paysages, ouais, des textures presque.
Est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux ou sur Internet pour continuer à découvrir ton travail?
Oui, il y a Instagram, quoique je ne sois pas prolifique sur ce média-là. Sinon, sur SoundCloud, il y a beaucoup de choses qui sortent. Le travail sonore, en tout cas, sort sur SoundCloud. Donc, le SoundCloud, c'est Doudinka, D-U-U-D-I-N-K-A.
Vous venez d'écouter la première partie du docu-fiction « Les cailloux meurent aussi », réalisé par Doudinka, produit par Transculture avec le soutien de l'ACSR de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On vous attend fin septembre pour la diffusion du deuxième épisode.
C'était Quartier Libre, une proposition dédiée à la création sonore et aux écoutes expérimentales, imaginée par Audrey Bercier et Maxine Reiss, sous l'impulsion de Radio Vostok. On se retrouve dans quelques semaines pour une nouvelle pépite sonore.
D'ici là, tendez les oreilles, frémissez du bout du nez et laissez-vous chatouiller par les bruits du vivant.